Module suivant de notre application, la partie Service REST qui va permettre d'exposer nos fonctionnalités crudes au travers de web services de type REST. Quel est l'objet des services REST? L'objet des services REST est de simplifier le fonctionnement des services web classiques. Un service REST est un type de service web particulier qui ne s'appuie pas sur le protocole de communication SOAP, mais qui s'appuie beaucoup plus sur les fonctionnalités de base du protocole HTTP. Là où les services web peuvent fonctionner sur d'autres protocoles que le protocole HTTP, les services REST sont fortement adhérents à HTTP. Java E supporte les services REST au travers d'une spécification JAX-RS et qui supporte les deux modes de communication REST, à savoir le XML et le JSON. La spécification s'appelle JAX-RS, l'implémentation de référence s'appelle Jersey et c'est celle qui est utilisée à l'intérieur de GlassFish. La notion de service REST repose essentiellement sur deux notions principales. La première de ces notions est la notion d'URI. Une URI signifie que toute ressource possède un nom, que ce nom est unique et que l'on peut faire éventuellement une requête sur ce nom. La notion d'URI a tendance à se confondre avec la notion d'URL, puisqu'une URL est une URI particulière, mais cette notion d'URI reste tout de même plus générale. On peut imaginer des URI qui ne sont pas associées à des URL et les exemples sont nombreux. La deuxième notion sur laquelle repose REST est la notion de protocole HTTP. L'idée fondatrice de REST est d'exploiter au maximum les ressources du protocole HTTP, d'utiliser pleinement ces ressources, là où les services web classiques expriment leurs fonctionnalités au travers du protocole SOAP qui est construit au-dessus de HTTP. HTTP définit notamment la notion de méthode. Les premières méthodes et les plus connues sont les méthodes GET et POST qui sont utilisées sur les services web, mais on en a également d'autres, la méthode PUT qui a également son sens dans le contexte JAX-RS, la méthode DELETE qui est censée pouvoir effacer des ressources en base, et puis d'autres méthodes, TRACE, AID, et options qui sont probablement moins utilisées, et puis la méthode connect qui n'est pas une méthode à part entière, qui est un mot réservé pour des utilisations futures éventuelles. Comment allons-nous mettre tout ça en œuvre à l'intérieur de JAX-RS et comment allons-nous pouvoir exploiter ces méthodes HTTP pour réaliser des opérations au final dans notre base de données au travers de notre application. Construisons un service REST. Cela consiste à associer un appel HTTP particulier à une méthode particulière d'une classe donnée. Supposons que l'on définisse l'URI suivante pour un musicien particulier de notre base. Musicien slash 12 représente le musicien de notre application dont la valeur de clé primaire est 12. On souhaite associer cette URI à une URL et si on passe cette URL à notre application avec la méthode GET, on souhaite retourner un document qui peut être XML ou JSON et qui va représenter ce musicien. Voyons cette mise en œuvre. La première chose à constater, c'est que notre application porte le nom fr.soat.javaee, donc on s'adresse ici à notre serveur, et notre application REST particulière vit sous l'URL de base REST, qui qui va être commune à toutes nos requêtes REST. Le reste de l'URL musicien/12 indique qu'au sein de cette application, on souhaite récupérer le musicien, l'instance de musicien dont la clé primaire est 12. Pour cela, nous allons créer une classe musicien REST service avec une méthode particulière dedans, getByID, qui va recevoir la valeur de clé primaire et retourner le musicien qui correspond. Nous allons annoter cette classe avec la notation pass et lui passer en paramètre la valeur musicien qui est le morceau d'URL qui préfixe la clé primaire que nous passons ensuite. Cette classe, du fait qu'elle est annotée par la notation pass, devient un service REST à l'intérieur de JAX-RS ou plus exactement l'implémentation d'un service REST. Les services REST sont gérés par CDI, donc supportent l'injection de dépendances, ce qui va nous simplifier la vie bien sûr pour l'implémentation de notre méthode getByID. Nous allons injecter notre JB musicien EJB à l'intérieur de cette classe musicien REST service. Cette injection sera assurée par CDI. Et du coup, notre méthode getByID va pouvoir invoquer la méthode findByID de cette JB directement. L'implémentation de cette méthode devient donc extrêmement simple puisque l'appel est redirigé directement vers notre JB. Il nous manque encore un certain nombre d'annotations pour associer l'URL complète musicien/12 à cette méthode en particulier. La première de cette annotation est la notation get qui indique que cette méthode va être invoquée sur une requête HTTP de type get. Si nous faisons une requête HTTP de type post, cette méthode ne sera pas invoquée. La deuxième annotation que nous allons ajouter est la notation produces. Il s'agit de l'annotation produces de JAX-RS. Il y a plusieurs annotations produces en Java E à laquelle on passe le type MIME qui va être utilisé pour encoder la réponse de cette méthode. Ici, cette méthode va retourner du XML. Le type MIME est donc text/XML. Et enfin, la dernière annotation est une annotation pass qui complète l'URL dont nous avons déclaré la racine sur la classe. La complétion de cette URL est en fait un paramètre. Ici, dans notre exemple 12, la valeur de ce paramètre va bien sûr pouvoir changer. Donc, nous déclarons ce morceau d'URL comme étant une URL dynamique et pour ce faire, nous le plaçons entre accolades. Entre accolade ID signifie que le reste de l'URL après musicien slash doit être enregistré au niveau d'une variable qui s'appelle ID. Cette variable, c'est un paramètre exprimé sur le chemin de cette URL, donc sur le path de cette URL, et nous allons pouvoir injecter la valeur de cette variable directement dans le paramètre de notre méthode à l'aide de la notation passParam à laquelle nous passons l'attribut ID qui est le nom de la variable ID définie dans la notation pass posée sur la méthode getByID. Là, les choses prennent un tour un peu magique, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent et quand notre méthode getByID sera invoqué, se retrouvera dans la valeur du paramètre de cette méthode, la valeur 12, qui est la valeur passée sur notre URL. Donc, un service REST est une classe annotée. Il y a de nombreux éléments à préciser au travers des annotations. D'une part, l'URL sous forme d'une racine posée sur notre classe et sous forme de complément à cette racine posé sur nos différentes méthodes. D'autre part, là où les méthodes HTTP autorisées pour l'invocation de chacune de nos méthodes, le type de données produites, qui peut évidemment être très divers. Tous les types MIM sont bien sûr supportés par JAX-RS. Et la façon dont les différents paramètres peuvent être passés et injectés en tant que paramètres des méthodes de notre classe. Il reste un dernier point à détailler. La méthode que nous avons écrite retourne un objet de type musicien. Et pourtant, si l'on fait une requête sur notre service REST, c'est bien un document XML que l'on reçoit. On a donc encore un peu de magie qui s'exécute à cet endroit-là. Comment notre objet Java a-t-il été converti en un document XML? En d'autres termes, comment le framework Jersey, spécifié par JAX-RS, sait-il convertir un objet Java, une instance d'objet Java, en un document XML? Les choses ne sont en fait pas si magiques que ça. Un service REST a besoin de convertir un objet Java en document XML ou en document JSON, et il s'appuie pour cela sur une API particulière de Java qui s'appelle JAXB. JAXB, Java API for XML Binding, est une API qui est intégrée au JDK, donc qui fait partie de Java SE, et sur laquelle JAX-RS s'appuie pour réaliser ses conversions. À l'heure actuelle, au niveau de Java EE 7, JAXB est en fait utilisé à la fois pour les conversions vers le XML et pour les conversions vers le JSON, alors que ces deux formats sont fondamentalement différents. Dans la version 8 de Java EE se trouvera une spécification supplémentaire sur laquelle les travaux ont déjà commencé, qui se nomme JSON B, B comme binding bien sûr, et qui permettra de spécifier différemment la conversion des instances de classe Java vers le XML ou vers le JSON, mais pour le moment, ces deux éléments sont liés techniquement. D'un point de vue pratique, qu'est-ce que JAXB? Il s'agit en fait d'un jeu d'annotation pour décrire la conversion d'une instance de classe Java en un document XML. Voyons ces choses sur un exemple et annotons notre classe musicien. JAXB propose de nombreuses annotations, il y en a plusieurs dizaines. L'objet de cette présentation rapide est de juste montrer le strict nécessaire pour faire une première conversion. La première annotation dont on a besoin est l'annotation XML root element que l'on doit poser sur les classes qui doivent être traitées par JAXB. On peut passer différents attributs à cette annotation. Le premier attribut est le nom de l'élément racine dans lequel cette classe sera écrite. Et puis on peut ajouter d'autres éléments sur les différents champs de notre classe. Par exemple, l'annotation XML attribute nous permet de préciser que le champ ID qui porte la clé primaire de notre classe musicien va être écrite dans un attribut XML de l'élément musicien plutôt que dans un sous-élément. Il nous reste un dernier élément à configurer pour notre service REST, qui est l'URL de l'application sous laquelle l'ensemble de nos services vont être disponibles. Cet élément se définit par une annotation posée sur une classe dont le nom est libre, mais qui doit étendre une classe JAX-RS nommée Application. Cette classe peut vivre dans n'importe quel endroit de notre application Java EE. Traditionnellement, on la range proche des classes qui vont implémenter nos divers services REST. On peut ajouter d'autres éléments à cette classe, notamment préciser les classes qui implémentent nos services REST. Si ce point n'est pas précisé, JAX-RS, ou plus exactement Jersey, va explorer notre application à la recherche des classes annotées par pass et va donc exposer les différents services REST associés. Peut-être peut-on prolonger cette présentation en se posant une question. Que se passe-t-il si je fais une requête sur un musicien, par exemple le musicien numéro 12, qui lui-même n'existe pas? Que se passe-t-il si le musicien numéro 12 n'existe pas en base de données? La façon naturelle de répondre en HTTP à une requête lorsque la ressource associée à cette requête est non existante est de retourner une erreur 404. Mais malheureusement, dans notre code, on retourne directement un objet musicien. Les choses risquent de mal se passer si l'on retourne un objet nul, parce que JaxB va se retrouver à devoir créer un document XML à partir d'un objet nul, ce qui va probablement générer des erreurs ou des exceptions. Donc plutôt que de recevoir une erreur 404, notre utilisateur, notre consommateur de service REST, risque plutôt de récupérer une erreur 500 qui indique qu'un plantage a eu lieu côté serveur. Il faut donc modifier en fait notre service REST et retourner notre objet musicien encapsulé dans une réponse dont on va pouvoir fixer exactement les paramètres. On modifie donc le type de retour de notre méthode getByID. Il s'agissait d'un musicien, il s'agit maintenant d'un objet de type response. On va chercher en base le musicien dont la clé primaire est reçue en paramètre. Si ce musicien est non nul, on construit une réponse avec le type de retour OK et en passant notre musicien en paramètre de cette méthode. Donc tout va se passer exactement comme dans le cas précédent. En revanche, si notre musicien est nul, donc si ce musicien n'existe pas en base, on peut construire une réponse en passant le code d'erreur not found, qui est le code d'erreur 404, construire cette réponse et la retourner directement à l'utilisateur. De ce fait, notre utilisateur recevra bien une erreur 404 plutôt qu'une erreur 500, ce qui faisait un peu désordre. Il nous reste donc à créer des méthodes pour les trois autres opérations de notre tétralogie crude, la création, la mise à jour et l'effacement. Élément suivant de notre application Java EE, créons à présent un petit service REST simple sur nos entités musiciens. Comme tout en Java EE, un service REST est modélisé par une classe particulière que nous allons ranger dans un package REST et que nous allons appeler musician_rs. On souhaite dans un premier temps répondre à une URL du type musicien/12 et on voudrait que cette URL nous retourne un document XML contenant le musicien dont la clé primaire est 12. Étant donné que nous allons avoir plusieurs opérations de type REST sur la même entité, sur la même classe musicien, il est logique de regrouper l'ensemble de ces opérations REST dans une classe unique. Donc cette classe s'appelle musicien_rs ici et sera rangée sous l'URL d'accès musicien. Dans le contexte JaxRS, cela se fait simplement en ajoutant une annotation sur notre classe musicien_rs et en lui passant en paramètre la racine de l'URL sous laquelle l'ensemble des méthodes vont être rangées. Créons donc notre méthode qui va retourner un musicien, findByID, et à laquelle on va passer une valeur de clé primaire. Comment cette méthode doit aller chercher son musicien? Tout simplement en s'adressant à l'EJB que l'on vient de créer. Donc, private musicien service, c'est le nom de notre EJB, en tant que champ de la classe. Nous sommes dans un contexte Java EE,
Donc, cet EJB musicien service peut être injecté dans l'instance de ce service REST avec la notation EJB. On peut à présent utiliser notre EJB et retourner musicien service.findById et passer la valeur de clé primaire. Comment peut-on associer cette méthode précise à ce morceau d'URL, étant donné que nous sommes dans une classe qui répond déjà sous l'URL musicien? Les choses sont assez simples et se font encore grâce à des annotations. Tout d'abord, on indique à JAXRS que l'on répond à la méthode http-get. D'autre part, on lui indique que le chemin auquel on répond est en fait un paramètre auquel on va donner un nom, par exemple ID. Et la valeur de ce paramètre, sur notre exemple, c'est la valeur 12, la valeur de ce paramètre sera injectée dans le paramètre d'appel de la méthode findById en l'annotant avec passeParam, celui de JAXRS bien évidemment, et en passant en paramètre de passeParam le nom du paramètre auquel on s'intéresse. Le dernier point qu'il faut préciser, c'est le type de données que l'on va retourner. Essentiellement, dans un service REST, on peut retourner des données au format XML ou au format JSON. Dans ce cas, lorsque l'on retourne des entités, supposons que l'on veuille retourner du XML, on va indiquer ce point à JAXRS grâce à la notation produces, toujours celle de JAXRS, et en lui passant en paramètre le media type que l'on veut lui retourner. Il y a plusieurs media types dans Java E, celui qui nous intéresse est bien sûr celui de REST, donc Java X, WS, RS. Des media types, on en a évidemment une bonne quantité. Celui qui nous intéresse est le media type text XML, celui qui encode les réponses au format XML. Donc voilà comment établir un service REST simple. Il nous reste un élément de configuration à préciser, c'est la racine sous laquelle l'ensemble de nos services REST pour notre application va répondre. Cela se fait encore de façon un peu magique par annotation. Créons une classe, application RS. Le nom de cette classe n'importe pas. Cette classe doit étendre la classe application de JAXRS. Toujours bien faire attention au package de cette classe. Il s'agit de Java X WS RS. On annote cette classe avec la notation application pass de JAXRS, encore une fois, à laquelle on va passer, par exemple, l'attribut REST qui complétera donc l'URL sous laquelle notre service REST va répondre. On peut ajouter des éléments à cette classe qui vont permettre de préciser un certain nombre de choses, notamment la liste des classes qui encodent nos services REST, mais ces éléments sont optionnels. JAXRS peut les découvrir par lui-même. Nous allons donc en rester là pour notre application. Et notre service REST a tous les éléments dont il a besoin pour effectivement fonctionner. Certaines choses ne vont pas encore très bien marcher, donc nous allons amener des précisions et des modifications à cette méthode, mais dans un premier temps, les choses peuvent fonctionner de cette façon. Il reste tout de même un point en suspens, c'est le miracle par lequel cette classe musicien, cette instance de musicien que l'on retourne, va être convertie en XML. Alors, en fait, il n'y a pas de miracle. Il suffit de poser des annotations particulières sur la classe musicien. XML route élément au niveau de la classe va permettre de dire à l'implémentation que les instances de cette classe peuvent effectivement être écrites, être sérialisées dans des documents XML. De même, abstract persistante est aussi annotée avec XML root élément. Et puis, pour préciser un peu les choses, nous avons également ajouté XML attribute sur le champ de la clé primaire, de façon à préciser que ce champ doit être enregistré dans un attribut de l'élément XML musicien. De façon à indiquer à l'implémentation que les champs de la classe doivent être pris en compte pour la création des éléments XML plutôt que les paires de getter-setter, on peut également ajouter une annotation XML accessor type et lui passer en paramètre field plutôt que méthode de façon à lui indiquer ce point. Notre application REST est maintenant prête à être déployée dans notre application Java EE, ce que nous allons faire maintenant. Déployons maintenant notre première version d'application Java EE dans notre serveur local. Pour cela, on retourne dans la perspective Java EE d'Eclipse. Il nous faut préciser au niveau de notre projet Java EE et au niveau de son déploiement que l'on veut mettre le projet modèle que nous avons créé en dépendance de ce déploiement. Le jar de notre projet modèle doit être rangé dans le répertoire webinflib de notre application web, et c'est bien ce que nous avons fait ici. Une fois que notre projet Java EE est ainsi packagé, on peut le déployer dans GlassFish directement. On peut vérifier que notre application a bien été déployée dans GlassFish en allant dans notre interface d'administration. Sous le nœud application, on a bien MVA Java EE qui est correctement déployé. Pour tester notre service REST, il suffit d'envoyer une requête sur localhost 8080 MVA Java EE qui est le nom de notre application web, suivi de REST, l'élément que l'on a configuré sur notre classe application, suivi de musicien slash 1 qui est donc la méthode findById du service REST que nous avons programmé. Cette requête nous retourne bien un élément XML contenant notre musicien. Certains éléments ont peut-être des noms qui ne nous conviennent pas. On peut aller particulariser ces noms au niveau de la classe musicien sur le champ musicType, rajouter une annotation XML élément et préciser que le nom doit être music-type et faire de même sur l'élément creationDate que l'on peut renommer creation-date. Le cycle de redéploiement est très simple. Il suffit de rafraîchir le déploiement dans GlassFish, de retourner dans l'IHM de notre navigateur, de rafraîchir. Donc on constate que notre élément XML, le résultat, a bien été rafraîchi avec les modifications que l'on vient de faire.